Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un agenda européen surchargé à la une ce matin. Le Brexit va s'inviter au sommet des dirigeants des 27 dès aujourd'hui. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne se sont fixés hier soir une nouvelle échéance, dimanche, pour savoir si un accord peut être trouvé pour définir les futures relations entre Londres et Bruxelles sur un autre sujet de blocage majeur, celui du budget pour les 7 années à venir. Et sur le plan de relance post-Covid, l'horizon semble en revanche se dégager.
La Pologne et la Hongrie qui bloquaient les discussions refusant des aides conditionnées pour la première fois au respect de l'état de droit auraient finalement compris leur intérêt. Ne pas être privé de milliards d'euros de Bruxelles.
À la une encore, une cyberattaque de l'Agence européenne des médicaments, celle qui délivre des autorisations à plusieurs vaccins contre le Covid-19. Et puis cette question, en France, le confinement sera-t-il levé mardi prochain 15 décembre, comme Emmanuel Macron l'avait prévu? Rien n'est moins sûr, et réponse ce soir lors de la conférence de presse du Premier ministre Jean Castex.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, à quoi sert un porte-avions à propulsion nucléaire? Si je vous pose la question, c'est qu'on va en commander un. Je poserai la question à Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion.
Plus de 1000 milliards d'euros sont en jeu d'ici 2027, sans compter les 750 milliards d'euros pour relancer des secteurs exsangues, durement éprouvés par la crise sanitaire. Restauration, petit commerce, transport, culture et des millions d'emplois en dépendent. Le budget de l'Union européenne, bloqué jusqu'à présent par la Pologne et la Hongrie, est désormais en bonne voie. Berlin a trouvé hier soir un compromis avec Varsovie et Budapest avant un sommet des dirigeants européens aujourd'hui et demain à Bruxelles. La correspondance d'Angélique Bouin.
C'est du côté des pays dits frugaux, Pays-Bas ou Danemark, que les regards se tourneront dès l'apéritif. Des États qui avaient eu du mal à sortir leur chéquier pour la relance, qui ne veulent plus payer si les fonds sont détournés et qui seront donc très pointilleux sur les ajustements obtenus par Budapest et Varsovie. De simples clarifications juridiques, promettons de sources européennes. Pour la France, très attachée à ce nouveau mécanisme, le compromis est acceptable. On n'a rien lâché de fondamental, insiste un diplomate. La menace agitée ces derniers jours d'un plan de relance à 25, sans les deux récalcitrants, a sans doute beaucoup pesé. Si le veto est levé, on pourra alors aborder plus sereinement la question du climat, car c'est là aussi du côté des pays de l'Est, Pologne en tête, que l'objectif espéré d'une baisse de 55% des émissions d'ici 2030 fait tiquer, et pour cause, passer de 40%, ce qui était prévu, à 55% dans l'industrie, les transports, c'est une vraie rupture. On va donc rediscuter de soutien financier pour aider ces pays à se moderniser, en espérant avoir au préalable réglé la question du respect de l'état de droit pour en bénéficier.
Et pendant que les 27 vont discuter du budget européen, notamment à partir d'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne réunit, elle, son conseil des gouverneurs et elle devrait encore prolonger son soutien à la dette émise par les États membres de la zone euro pour faire face, là encore, à la crise sanitaire et économique. Marie Viennot.
La Banque Centrale Européenne est en ce moment sous pression. Pas parce qu'il y a le feu dans la zone euro. La situation est au contraire très calme. Les États empruntent sans aucun souci sur les marchés pour financer leurs dépenses colossales du moment. La situation n'a donc rien à voir avec celle de 2008. Aucune crise des dettes souveraines n'est en vue et c'est grâce au programme spécial pandémie que la BCE a mis en place au printemps. La pression ne vient donc pas de là. Elle vient de l'inflation. Avec la crise sanitaire, la chute des prix de l'énergie, la baisse de la demande liée aux divers confinements, le taux d'inflation dans la zone euro est négatif. Depuis 4 mois consécutifs, il tourne autour de moins 0,4%. Or, le mandat de la BCE, le seul qui lui est fixé par les traités, c'est de maintenir l'inflation autour de 2%. Cette inaptitude à respecter son mandat n'est pas conjoncturelle pour la BCE, elle dure depuis 8 ans. Ce qui mine la crédibilité de l'institution monétaire. Ne rien faire n'était pas une option, d'autant plus que la reprise n'est pas encore en vue, a prévenu Christine Lagarde, la présidente de la BCE.
Dans ce contexte économique compliqué vient s'ajouter l'incertitude sur les futures relations entre Londres et Bruxelles. À 3 semaines de la fin de la période de transition post-Brexit, de très grands écarts subsistent entre les deux parties, pas sûr de pouvoir les combler d'ici dimanche. Nouvelle date que se sont fixées le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'issue d'un dîner hier soir à Bruxelles.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Outre souci pour les 27, l'Agence européenne des médicaments a été victime d'une cyberattaque hier.
Une enquête est en cours, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Et ce n'est pas la première attaque du genre, Éric Biégala, sur des institutions ou des laboratoires travaillant sur un vaccin.
Le communiqué de l'Agence européenne des médicaments tient en quelques lignes et ne donne aucun détail quant à la nature ou au sérieux de l'attaque dont elle a été victime. L'agence, l'AEM, travaillait actuellement à l'homologation pour les pays de l'Union des vaccins Pfizer et Moderna, lesquels devraient être autorisés d'ici la fin de l'année pour le premier, d'ici la deuxième semaine de janvier pour le second. Les cyberattaques contre des institutions travaillant sur des vaccins se sont multipliées ces derniers mois. Les labos américains Johnson & Johnson et Novavax, l'anglo-suédois AstraZeneca ont fait l'objet d'attaques infructueuses durant l'été. La semaine dernière, IBM révélait qu'une campagne mondiale d'hameçonnage informatique avait été lancée, probablement par un acteur étatique, pour pénétrer les techniques de préservation de la chaîne du froid, particulièrement difficiles à mettre en œuvre pour les vaccins Pfizer et Moderna. Les soupçons se sont immédiatement portés sur les hackers russes, mais le vaccin russe Sputnik V lui-même a été victime d'attaques. Fin octobre, le labo indien Dr. Reddy's, qui venait de lancer une campagne d'essai clinique pour le vaccin russe, était à son tour victime d'une attaque de très grande ampleur visant la plupart de ces sites de par le monde.
En France, le confinement sera-t-il levé mardi prochain, 15 décembre, synonyme de réouverture des cinémas, théâtres et musées, ou bien faut-il repousser la date du déconfinement? Toutes les options sont en tout cas sur la table avant une conférence de presse ce soir du Premier ministre Jean Castex, dans un contexte où plus de 14 500 cas de Covid ont été recensés en 24 heures. On est très loin de la barre des 5000 fixée par Emmanuel Macron. L'exécutif et les professionnels de santé craignent qu'avec un test négatif pratiqué avant les fêtes, les Français ne relâchent leur vigilance et les gestes barrières l'aura du lieu.
Actuellement, entre 600 et 700 000 tests sont réalisés chaque semaine. C'est bien moins qu'avant le confinement et ça s'explique de plusieurs façons, selon Lionel Baran, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux.
Moins de cas, premièrement, il y a moins de cas positifs.
Un tiers des 18-24 ans a renoncé à des soins de santé, ce qui est un chiffre très important, pour des raisons financières. Un jeune sur deux.
Et on va peut-être tout de suite reprendre le reportage de Laura Dulieu, consacré donc aux tests négatifs pratiqués par les Français, peut-être avant les fêtes, synonyme donc de relâchement.
Actuellement, entre 600 et 700 000 tests sont réalisés chaque semaine. C'est bien moins qu'avant le confinement. Et ça s'explique de plusieurs façons, selon Lionel Baran, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux.
Moins de cas, premièrement. S'il y a moins de cas positifs, il y a moins de cas contacts, donc moins de personnes à faire tester. Moins de PCR à faire pour les voyages. Une partie des tests PCR qui ont basculé vers des tests antigéniques. Et puis il y a peut-être encore un delta, effectivement, peut-être que des personnes qui devraient se faire dépister ne sont pas dépistées.
Mais la grosse appréhension, ce sont bien les fêtes. Beaucoup de Français prévoient de se faire tester avant et après. Mais Lionel Baran insiste, un test négatif n'est pas un vaccin contre le Covid.
Dépister un maximum pour isoler tous ceux qu'il faut isoler tout de suite, aller chercher les cas contacts tout de suite et limiter la diffusion du virus avant Noël, c'est bien. Dépister pour avoir un résultat négatif et ne plus être vigilant sur les mesures barrières, ce serait une catastrophe parce que ce serait même contre-productif parce que les personnes qui feraient plus attention alors qu'elles sont contagieuses, c'est celles-ci qui seraient les super contaminateurs de leur famille, de leurs amis et notamment des personnes les plus fragiles. Un test négatif n'est pas un passeport de non-contagiosité et pour éviter d'attraper le virus, c'est pas le test qui est un remède miracle. C'est les mesures barrières, le port du masque et la distanciation. Voilà, c'est comme ça qu'on limitera la diffusion.
Et la France peut faire au maximum entre 2,5 et 3 millions de tests chaque semaine. Il faudra donc prioriser et se faire tester uniquement en cas de doute.
La crise sanitaire, synonyme d'inquiétude pour tous, et notamment pour les 18-24 ans, selon une étude menée par l'Institut ELAB, publiée à l'occasion d'une journée de débat organisée par le Cercle des économistes sur les jeunes générations sacrifiées. Débat en partenariat avec Radio France et le quotidien Les Échos. Inquiétude des jeunes sur la santé et sur l'emploi détaillée par Bernard Sananès, le président de l'Institut ELAB.
Un tiers des 18-24 ans a renoncé à des soins de santé, ce qui est un chiffre très important, pour des raisons financières. Un jeune sur deux confie qu'au cours des derniers mois, il a réduit ses dépenses alimentaires ou il a dû sauter un repas. Cette situation financière, cette pression du pouvoir d'achat fait par exemple que les jeunes sont obligés de faire appel à leurs parents. Près de 6 parents sur 10 ont dû les aider, mais ils considèrent pour les 3/4 d'entre eux que la jeunesse a l'énergie pour sortir de cette crise-là. Il y a dans toute l'enquête cette forme d'ambivalence. On est très lucide quand on a aujourd'hui 20 ans, mais en même temps, on ne se laisse pas abattre. Et puis, 2/3 des jeunes considèrent qu'avoir 20 ans aujourd'hui, ça reste le plus bel âge de la vie.
Bernard Sananès, le président de l'Institut ELAB, qui répondait à Diane Berger, que l'on retrouve à 7h25 pour le reportage de la rédaction consacré à l'entrée compliquée des jeunes sur le marché du travail.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les indépendantistes kanaks ont décidé de boycotter ce matin une réunion avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.
Dans un contexte de vive tension depuis quelques jours en Nouvelle-Calédonie, des barrages se sont constitués aux alentours des sites miniers, certains tenus par des indépendantistes, d'autres par des loyalistes, des hommes armés parfois à ces barrages. Les échauffourées durent depuis lundi et l'on dénombre plusieurs blessés parmi les gendarmes. À l'origine de ces troubles, la vente par le groupe brésilien Vale de l'usine de nickel du Sud adossée au gisement de Goro. On y revient dans le journal de 7h30. L'information fait la une de la presse israélienne. Une sécession à l'intérieur du parti du Premier ministre de droite, Benjamin Netanyahou, la plus importante depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2009. Gideon Saar a décidé de quitter le Likoud pour fonder son propre parti alors qu'une procédure de dissolution du Parlement est en cours et que des élections anticipées pourraient être convoquées en mars prochain. Gideon Saar, ancien ministre de l'Éducation et de l'Intérieur de Netanyahou, invoque sa mauvaise gestion de la crise du coronavirus et il est soutenu par plusieurs députés maires ou anciens officiers de haut rang, Frédéric Mettezo.
Il y a un an, Gideon Saar avait été le premier à oser défier Netanyahou à la primaire du parti. Un échec, mais aussi un score honorable de 27,5%. Aujourd'hui, il dénonce le culte de la personnalité du Premier ministre et il l'accuse d'utiliser le pouvoir pour se protéger de la justice. Gideon Saar confirme que le clivage droite-gauche a disparu au profit du pour ou contre Bibi.
Aujourd'hui, il est impératif de remplacer le régime de Netanyahou. Et c'est pourquoi j'ai décidé de créer et de diriger un nouveau mouvement pour me mesurer à Netanyahou à la tête du gouvernement et pour le remplacer.
Gideon Saar est plus à droite que Netanyahou sur la colonisation et le conflit israélo-palestinien, mais il est aussi beaucoup plus respectueux de l'institution judiciaire et de la Cour suprême. Un premier sondage lui donne 17 sièges sur 120. Il séduit des électeurs sur tout l'échiquier. Son parti s'appelle Nouvel Espoir. Il faudra bien ça car il n'est pas le premier à se dresser face à Netanyahou. En presque 12 ans, une dizaine de personnalités de droite, du centre et de gauche ont déjà tenté de le déloger. Politiquement, Bibi les a soit retournés, soit écrasés.
Frédéric Mettezo à Jérusalem pour France Culture. Le temps de ce jeudi 10 décembre, marqué par de la grisaille à l'est, par de la neige sur le Limousin et le Massif central, des averses sur la façade atlantique. Les températures sont comprises ce matin entre moins 7 et 10 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Et dans quelques instants, Catherine Dutu, on retrouvera le reportage de la rédaction. Il s'intéressera aux jeunes diplômés qui voient leur entrée sur le marché du travail compliquée par la crise sanitaire, mais tout de suite, c'est la question du jour. À quoi sert un porte-avions à propulsion nucléaire ?